Les atteint.
La tête au carré. Le magazine scientifique de France Inter.
5, 5, 3, 3, 1, 1, 0.
Bonjour à tous, bienvenue dans La tête au carré. Nous sommes les élèves de terminale scientifique du lycée français Jean Monnet de Bruxelles et nous allons parler aujourd'hui avec le pédopsychiatre Jean-Yves Hayez des relations sexuelles. C'est un thème que nous avons abordé avec notre classe de sciences de la vie et de la Terre et vous pouvez nous retrouver sur le site internet de La Tête au Carré pour en discuter avec vos messages sur franceinter.com. Bonjour Mathieu.
Bonjour Nicolas, merci beaucoup de nous accueillir donc ici à Bruxelles dans la commune d'Uccleux pour cette Tête au Carré en partenariat avec l'Université de tous les savoirs. Donc nous poursuivons notre route dans les lycées avec les classes scientifiques de terminale et donc effectivement aujourd'hui nous sommes au lycée français Jean Monnet pour parler des relations sexuelles sous l'angle biologique, psychologique, logique, morale, éthique et socioculturelle. Et l'invité de l'émission, donc le pédopsychiatre Jean-Yves Hayez. Bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes professeur émérite à la faculté de médecine de l'Université catholique de Louvain et vous avez dirigé le service de psychiatrie infanto-juvénile aux cliniques universitaires Saint-Luc à Bruxelles, c'est bien ça?
C'est bien cela.
Et vous êtes toujours en exercice, monsieur Hayez?
Oui, bien sûr, bien sûr. Hein?
Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté de répondre aux questions des lycéens, de discuter donc avec eux sur ce thème. Et puis les auditeurs également de La Tête au Carré vont nous rejoindre avec les messages qui arrivent ici en direct de Bruxelles sur franceinter.com.
La Tête au Carré, Mathieu Vidard.
Le magazine scientifique de France Inter.
De France Inter.
Pascal Pantaine, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le proviseur du lycée français de Bruxelles et votre établissement a fêté son centenaire en décembre dernier. Alors, dans quelles conditions est né ce lycée? On va parler un petit peu de vous, puis ensuite on passera au sujet qui nous intéresse.
Voilà, donc le lycée français Jean Monnet donc, est né en 1907, donc il existe. On parle de décembre 2007, donc a fêté donc, en décembre 2007 ses 100 ans. C'est un établissement qui est passé donc, pendant ce siècle d'un petit établissement d'une centaine d'élèves près de la gare du Midi de Bruxelles et qui maintenant est dans la commune d'Uccle, toujours dans Bruxelles.
On dit Uccle ici. Hein.
Uccle, voilà.
Et non pas Uccle.
Avec 2300 élèves aujourd'hui et même avec des projets d'extension puisque ouais. Le lycée... a beaucoup de monde à sa porte.
Alors, est-ce que les matières scientifiques étaient déjà enseignées ici en 1907?
Ah ben, en 1907, il y avait déjà 25 disciplines, matières qui étaient enseignées dans l'établissement. Donc, on retrouve évidemment les langues, on retrouve le droit, on trouve aussi les sciences, mais on trouve aussi l'hygiène, on trouve toutes sortes de disciplines qui s'enseignaient à l'époque.
Combien d'élèves sont scolarisés en ce moment dans votre établissement?
2300 élèves, en grande partie des élèves français.
Oui, c'est 80% à peu près des élèves
à peu près
80%
des élèves sont de nationalité française. Mmh. Et les
20%... Et des Belges un petit peu quand même?
Oui, bien sûr, on est entre 5 et 10% de ressortissants belges.
Et 40 nationalités à peu près
qui sont présentées.
Il y a 40 nationalités
présentes dans l'établissement.
Oui. Alors je crois que le lycée travaille beaucoup sur l'apprentissage des langues.
Voilà, ça fait partie du projet d'établissement. D'ailleurs, il faut bien resituer l'établissement d'ailleurs dans son réseau. Hein. Le lycée français Jean Monnet fait partie du réseau des établissements français à l'étranger. Il faut quand même savoir que c'est presque 450 établissements dans 135 pays. C'est le plus gros réseau mondial d'établissements français étrangers hein, dans le monde. Et dans ce contexte-là, tous ces établissements-là, bien évidemment, ont une obligation d'ouverture sur le pays d'accueil et sur les langues, évidemment, et sur l'international et l'Europe quand nous sommes... comme ici, dans un pays de l'Union européenne. Donc le lycée de Bruxelles, dans ce contexte-là, a un projet très dynamique, avec d'une part, dès la maternelle et sur l'ensemble des élémentaires, un dispositif bilingue, à parité, donc 50% en français, 50% en anglais, ou 50% en français, 50% en allemand. Dès la classe de 6e, on rentre dans un dispositif bilingue, donc l'obligation d'avoir d'un enseignement de deux langues vivantes, qui sont renforcées aussi... par des enseignements de disciplines non linguistiques qui sont enseignés en anglais ou en allemand, l'histoire, géographie, ouais. Mais aussi les sciences, on y vient, avec les mathématiques, les sciences physiques. Et aussi, nous allons mettre en place, dès la rentrée prochaine, excusez-moi, une discipline artistique, l'art dramatique.
Bien, et nous sommes dans la salle Emmanuel Mounier, professeur de philo au lycée,
voilà.
Ici, entre 1935.
Célèbre philosophe, évidemment, qui a enseigné dans cet établissement donc pendant 5 ans, entre 1935 et 1939-40.
C'est ça. Merci beaucoup, en tous les cas, de nous recevoir ici chez vous. À vos côtés se trouve Marie Christoffel. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes professeur de sciences de la vie et de la Terre. Il y a combien de classes scientifiques au sein du lycée exactement?
Alors au sein du lycée, il y a en terminale, on a 4 classes scientifiques et en première, on en a 3, donc une filière autour de 3-4 classes par année. Et on a en fait des élèves présents de deux classes scientifiques, terminale S1 et terminale S2 avec nous.
Voilà. Et quels sont les thèmes au programme pour vous cette année en sciences ?
Alors en sciences, en plus particulièrement en sciences de la vie et de la Terre, en biologie, on a des thèmes qui tournent autour de la génétique, autour de l'immunologie sous l'angle en fait du sida, et puis un thème qui va nous intéresser particulièrement puisqu'on travaille sur tout ce qui est procréation. Mmh. Et puis après, on a aussi toute une thématique en géologie où on va voir les mouvements de la Terre, des problématiques sur la datation et ce qu'on appelle les crises biologiques.
Mmh. Alors, vous avez des cours d'éducation sexuelle ici ?
Alors, on n'a pas des cours d'éducation sexuelle, mais dans le cadre, en fait, d'une directive éducation nationale sur l'éducation à la sexualité, les élèves ont eu l'an passé l'intervention, en fait, du planning familial à hauteur en première uniquement de 3 séances annuelles. Mmh. Donc, on peut aborder ces sujets-là dans le cadre de la procréation s'il y a des questions des élèves et un bon échange avec les élèves.
Alors, Nicolas, tu fais partie justement du club de sciences avec d'autres élèves. Mmh. Alors, quelles sont les activités que vous menez au sein de ce club ?
Alors, en fait, l'Inserm Jeune est un groupe d'étudiants ouvert de la 3e à la terminale et à toutes les filières. Donc cette année, nous sommes une dizaine d'élèves, majorité en terminale scientifique. Et donc nous abordons des différentes réflexions. Et cette année, on porte notre attention sur la vaccination. Mm-hmm. Donc nous élaborons une exposition et nous préparons un café santé où les élèves, les parents ou les professeurs pourront poser leurs questions à des experts que nous inviterons.
Et vous étiez hier à Paris, d'ailleurs, je crois, pour visiter l'Institut Pasteur.
C'est ça, nous visitions l'Institut Pasteur, nous avons rencontré là-bas deux chercheurs très intéressants, et puis nous avons visité l'exposition épidémique qui se déroule à la Villette en ce moment, toujours dans le cadre de la vaccination et des maladies.
Alors, les interventions sur les relations sexuelles, qu'est-ce que tu en penses, toi, ici, au sein du lycée ?
Bon, comme l'a expliqué Mme Christoffel tout à l'heure, j'ai juste eu les 3 heures avec le planning familial donné l'année dernière. Des rencontres enrichissantes et intéressantes sur le principe.
Oui, et ensuite
sur la pratique, je pense que...
Tu m'as dit tout à l'heure, c'est un peu guimauve quand même.
C'est un peu guimauve, c'est très, très sentimental.
Je balance, hein.
Oui, mais c'était très sentimental.
Ça n'appelait pas un chat, c'est...
Si, un petit peu, mais c'était surtout la vision du couple. Qu'est-ce qu'on attend du couple ? Qu'est-ce qu'on n'aime pas dans le couple ?
Oui, on tournait autour du pot, quoi, un petit peu.
Voilà,
quand même.
C'est en quelque sorte. Oui.
Voilà. Ouais. Alors, Jean-Yves Ayez, justement, c'est la difficulté de parler de ce thème à l'école ?
Oui, je pense que ça reste une difficulté pour les adultes et pour les jeunes en face d'eux d'être très concret et d'employer vraiment les mots qui désignent les réalités sexuelles. C'est difficile de parler du plaisir, de la manière dont on fait l'amour. Non, c'est peut-être pas indispensable que ce soit entre adultes et adolescents que beaucoup d'échanges se passent. Il y a énormément d'apprentissage de la sexualité qui se fait en monogénérationnel. Hein. Les enfants et les adolescents apprennent beaucoup de choses les uns des autres dans leurs conversations, sur Internet. Et puis bon, si on ajoute à ça, pour moi, comme facteur d'apprentissage de la sexualité, le témoignage de vie des parents, non pas que j'entends pas par là qu'il faut aller regarder par le trou de la serrure pour voir...
Ou raconter sa vie sexuelle.
Papa et maman, ni que les parents doivent regarder, raconter toute leur vie sexuelle, mais dans leur témoignage de vie, ils font passer des valeurs. Des valeurs sur ce qu'est le couple, sur ce qu'est le plaisir, sur ce qu'est négocier avec l'autre ou dominer. Ben, tout ça va servir aux enfants et aux adolescents pour aussi dicter les valeurs de leur vie sexuelle. Et ça, c'est peut-être ça le plus important. Et puis, il y a quelques petits dialogues en famille en plus.
Et vous avez souvent été amené à rencontrer justement les élèves ou pas au cours de votre carrière ?
De temps en temps, oui. Ouais,
parce que là, on voit que ce sont des intervenants extérieurs qui viennent finalement parler de ce thème à l'école.
C'est peut-être un peu plus facile. Oui, ça m'est arrivé un certain nombre de fois. Et, toujours essayer d'avoir avec eux des dialogues clairs et authentiques.
Jean-Yves Ayez, en tout cas, je signale que vous êtes l'auteur d'un livre qui s'appelle « La sexualité des enfants » chez Odile Jacob, qui est paru en 2004. Et puis donc, vous allez répondre aux questions des lycéens et à celles également des auditeurs de la Tête au Carré qui nous rejoignent donc ici à Bruxelles sur franceinter.com. Alexis Hachka avec Les Affranchis.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Donc d'abord, je voudrais passer un petit bonjour à ma classe de terminale.
La tête au carré,
l'université de tous les savoirs.
C'est sur France Inter.
Les élèves ont travaillé, réfléchi, et je pense qu'ils ont beaucoup, beaucoup de questions.
Bonjour, exactement, j'ai une question.
La tête au carré au lycée français de Bruxelles aujourd'hui avec les élèves des classes de terminale scientifique. Et aujourd'hui donc nous abordons cette question, y a-t-il un âge pour les relations sexuelles, avec le pédopsychiatre Jean-Yves Ayez. Vos questions sur franceinter.com. Alors c'est Victor qui va lancer la discussion. Bonjour à toi. Alors on va brancher les micros pour t'entendre. Victor ? Non, on n'entend pas Victor. Alors, vas-y, fais... On va changer de micro alors peut-être. Voilà, ça c'est les aléas du direct, vous voyez. Et le micro est arrivé.
Ah donc bonjour.
Voilà.
Pour la première question que je poserai, ce serait donc savoir sous quel aspect on va aborder la notion d'âge pour une relation sexuelle. Est-ce qu'il y a un début, enfin est-ce qu'il y a un âge pour commencer, est-ce qu'il y a un âge où on peut plus en avoir, où c'est fini.
Alors le début et la fin. Vaste programme.
Je commencerai par la question de la fin. J'espère qu'elle arrive le plus tard possible dans la vie des gens qui s'entendent bien et qui s'aiment bien, qui ont toujours suffisamment envie l'un de l'autre et qui sont toujours suffisamment en forme physique pour continuer à avoir des relations sexuelles à l'occasion. Et je pense que ça se passe comme ça dans un certain nombre de couples âgés et que c'est d'ailleurs plus parfois la fatigue physique ou la maladie que le manque de désir qui vient suspendre la partie sexuelle de la vie. Alors, pour l'âge du début, tu as une opinion à ce sujet, toi ? Ou quelqu'un a une opinion ici ?
Alors, Victor...
Quelqu'un oserait faire part de son opinion ?
Enfin, j'ai pas l'opinion, mais je pense qu'à partir du moment où il y a une volonté des deux parties et une possibilité aussi biologique, on peut estimer qu'on peut.
Approximativement, c'est mon opinion aussi. C'est-à-dire que ça se décide de l'intérieur quand on se sent prêt et puis qu'on a discuté avec son ou sa partenaire et qu'elle est prête ou il est prêt également. Et on voit que ce moment, d'ailleurs, il ne bouge pas énormément, en tout cas dans les sociétés occidentales comme les nôtres.
C'est-à-dire ?
Il ne bouge pas énormément. Vous savez, pour y arriver, il faut, un, que la machinerie soit prête, que le corps soit pubère. Et, il faut qu'on ait déjà fantasmé sur l'amour physique. Il faut qu'on ait apprivoisé quelqu'un. Qu'on l'aime, que de l'amour s'échange. Et puis, il faut être passé au-delà de certaines peurs qui sont au cœur de n'importe quel être humain à propos de la rencontre intime avec l'autre. Quand on fait l'amour, quand on fait vraiment l'amour, on abandonne l'espace d'un moment son corps à l'autre et l'autre en fait autant et on communie là dans un partage des cœurs, eh bien, pour oser vraiment faire ça, il faut un certain temps. Pour se donner en plus à quelqu'un qui a un corps différent, du moins dans 90% des cas, les amours restent hétérosexuels, donc c'est un peu le corps mystérieux de l'autre sexe. Il faut aussi qu'on ait suffisamment confiance en soi pour se dire, j'ai pas ramassé le râteau du siècle, ça va, mais je vais pouvoir lui donner du plaisir, je vais pouvoir partager. Quand on met tout ça ensemble, on voit que c'est, les statistiques disent depuis très longtemps, que c'est autour de 16 ans que beaucoup d'adolescents ont leur première vraie relation sexuelle avec un peu la profondeur que j'évoque.
Alors c'est vrai qu'on est déjà dans le rapport sexuel, là, mais il y a toute la partie de la pulsion et du désir aussi qui se construit lentement avant d'en arriver à ce rapport.
Oui, les pulsions sexuelles, évidemment, se renforcent avec le voyage de la puberté. Je ne dis pas qu'elle n'existait pas du tout chez l'enfant, mais chez l'enfant, c'était plus une affaire de curiosité, de découverte scientifique. Ils avaient d'autres clubs scientifiques autour, autour des comparaisons et découvertes sexuelles. Chez l'ado, c'est vraiment arrivent les pulsions. donc des excitations qui sont certes physiologiques et qui sont aussi déjà un peu en même temps mentalisées. Ce n'est pas tout à fait la même chose que des excitations instinctives, parce que les pulsions, elles ne sont pas orientées si strictement. On peut avoir une pulsion pour soi-même, on peut avoir une pulsion pour quelqu'un de son sexe, on peut avoir une pulsion pour une personne âgée. Et puis, les pulsions deviennent très vite des désirs. Hein, et alors, quelle est la différence entre une pulsion et un désir? Ben, le désir, c'est quand je reconnais ma pulsion. Je me mets à penser, oui, c'est moi. Je suis excité, je suis en anticipation de l'autre, mais je sais que c'est moi et que j'en ai envie et que l'autre n'est pas directement là, donc je dois encore le désirer. Et donc l'adolescent est beaucoup plus dans un monde de pulsions et de désirs, et ces désirs peuvent être en effet bien plus précoces que les 16 ans, mais il y a tout un temps alors de maturation, d'apprivoisement, de la confiance en soi, de la confiance dans sa valeur et aussi de l'audace qu'il y a à rencontrer intimement le corps et peut-être aussi les pensées les plus intimes de l'autre.
Ça, c'est le processus de ce que vous appelez l'évolution spontanée, finalement, oui. Avec tous ces paramètres hein, qui oui, entrent en jeu avant le premier rapport sexuel.
Ben oui.
Poppy, une question. Bonjour. Avec un magnifique suite du lycée français de Bruxelles, je vois que vous en avez tous un. Bravo.
Merci. Donc pour continuer à définir un peu les termes de la problématique, je vais demander comment est-ce qu'on va approcher la notion de relation sexuelle. Donc comment est-ce qu'on peut définir ce que c'est qu'une relation sexuelle?
Eh bien, cher ami scientifique, tu nous mets dans le monde des définitions, donc des sciences précises. Alors, la relation sexuelle, pour moi, c'est un pôle, peut-être le plus profond, le plus humain, de tout ce qui est activité sexuelle qu'on peut faire à plus qu'un. Quand on est tout seul, ça c'est la masturbation, mais quand on est à plus qu'un, il y a un pôle, la relation sexuelle, et je dirais qu'au pôle opposé, il y a les plans cul, pour parler...
clairement, mais on comprend très bien.
Clairement, mais familièrement, bon. Alors, qu'est-ce que j'appelle la relation sexuelle? Pour moi, ce sont donc deux personnes pubères. Tu remarqueras que je dis deux personnes, je ne dis pas un garçon et une fille, je dis deux personnes pubères qui ont un lien affectif entre elles et qui vont engager leur corps et les parties sexuelles de leur corps intimement pour vivre mutuellement, pour vivre quoi ? Du plaisir. On sait bien que l'acte sexuel, ça donne pas mal de plaisir. Pour vivre leur amour, pour vivre le signe de leur alliance, parce qu'ils pensent que ça va les épanouir plus. Et c'est vrai, quand ça réussit bien, ça contribue à l'épanouissement. Et quand même encore, de loin en loin, et souvent plus tard dans la vie, et pour peu qu'on soit fille et garçon, on fait aussi l'amour avec la perspective de se donner une descendance. Cette finalité première continue quand même à exister. Alors ça, pour moi, c'est la relation sexuelle. Et quand j'en parle comme ça, tu vois, ça confirme quand même que ça vient bien plus des désirs, des sentiments, du projet de vie, des sentiments amoureux que seulement de l'instinct ou du besoin de jouir. Hein? Alors ça, c'est un pôle. À l'autre pôle, bah, les plans cul, c'est ce qu'on fait en une demi-heure dans les toilettes d'un lycée, d'une discothèque.
Ah oui, il se passe des trucs comme ça ici ?
Pas ici, pas ici.
Pas au lycée de Bruxelles, non, certainement.
Pas dans celui-ci, non. Bien sûr.
Monsieur le proviseur, jamais. Vous avez l'air dubitatif.
Tout à fait.
Sur le siège arrière d'une voiture à la sortie d'une discothèque, bon... Hein, et où on ne cherche vraiment que le plaisir, la satisfaction du bas-ventre. Et alors, depuis quand même peut-être 20-30 ans, nos sociétés ont inventé des formules intermédiaires. Il y a pas mal de formules intermédiaires. Hein, la nuit confortable que je vais passer chez moi avec cette fille qui me plaît bien. Je vais le faire pour du sexe, mais il y a aussi de la camaraderie, de la sympathie, de l'estime entre nous. Peut-être que les Anglais diront que c'est un one-night shot, mais bon, il y a quand même quelque chose d'un peu plus que dans les toilettes de la discothèque. Et puis, on peut revoir un partenaire plusieurs week-ends, on peut avoir une liaison brève, on peut même avoir une liaison en sachant qu'on est lié à deux ou trois personnes en même temps. Donc, il y a un monde intermédiaire contemporain où certainement la recherche du plaisir est là, mais il y a déjà quand même aussi quelque chose au niveau de l'échange, de la camaraderie, en tout cas, de sentiments positifs. Et d'ailleurs, on voit que de temps en temps, il y a des vies de couple plus fidèles alors qui commencent parce qu'on a essayé d'abord sexuellement et puis on a vu qu'on avait des affinités. Et on sait bien que quand il y a des affinités, parfois on continue. Donc ce n'est pas blanc ou noir, hein, c'est un monde un peu compliqué, il y a un continuum.
Jean-Yves Haïes, d'autres questions pour vous dans un instant. On va écouter un extrait du film American Pie que vous connaissez, puisqu'on en a parlé tout à l'heure et qui fait déjà rire la salle. Alors c'est justement sur cette problématique de l'introduction au sujet de l'éducation sexuelle. Et là, on voit un père rentrer dans la chambre de son fils.
Entrez, entrez. Oh, Jim, tu es là. Je passais par hasard devant ta chambre et je me suis fait la réflexion suivante. Mon grand, il y a bien longtemps que nous n'avons pas eu une conversation entre père et fils. Oh, j'allais oublier. Je t'ai apporté des magazines. Ouvre-le à la double page centrale, si tu veux bien. Comme tu le vois, c'est très détaillé. Oui. Chez eux, les modèles sont épilés. Et on dirait presque une sorte de plante tropicale ou de végétation sous-marine, une algue. Est-ce que tu sais ce que c'est que le clitoris?
Non, c'est pas vrai.
Non, parce
oui,
que tu...
je oh, sais. Le
excuse-moi,
je
oui, c'est vrai que tu sais tout. J'oubliais, monsieur est un expert.
Mais écoute, on a des cours d'éducation sexuelle, tu sais. Alors, je suis étonné que tu sois délicaté de me parler du clitoris.
Je m'excuse,
d'accord?
Non, c'est moi qui m'excuse. Je m'excuse.
Excuse-moi.
Je m'excuse.
Voilà. Jean-Yves Haïes, un commentaire sur cet extrait.
C'est une caricature, évidemment. Ce film est amusant. Il a peut-être eu le mérite, enfin amusant, un peu lourd parfois quand même. L'histoire de la masturbation dans la tarte aux pommes n'est pas d'un goût des plus distingués. Il faut la manger, cette tarte
aux
pommes.
Mais je vois
après.
Que vous avez vu le film. Oui. Hein.
Bien sûr.
Ah, il faut la manger après.
Bah... bon, mais... c'est évidemment pas ça le dialogue sexuel sur la sexualité qui va être structurant entre parents et enfants. D'abord, c'est pas si facile que ça, le dialogue. C'est vrai qu'on a nos pudeurs comme adultes et comme jeunes aussi. Il y a une intimité générationnelle dans la sexualité. Et donc, voilà, il doit avoir lieu de temps en temps, mais il n'est simple à mener ni de père et d'autre. Je redis que je pense bien plus important de transmettre des valeurs à ces enfants et de parler parfois du sens que la sexualité a pour nous, adultes, que d'aller transmettre des pin-ups épilés dans un magazine. On ne donne pas la sexualité à ces enfants. La sexualité, ça se conquiert petit à petit de l'intérieur. Je crois que comme adulte, on accepte que nos enfants aient une sexualité en espérant qu'elle soit bien sociable, qu'ils aient du respect pour les gens avec qui ils feront. Mais on ne la donne pas vraiment. On ne donne pas à nos enfants la permission d'être sexuels. On ne donne pas les techniques non plus. Ben, ça se trouve tout seul.
Alors Christian, qui nous écoute à Paris, nous envoie par courriel ce petit message. Selon moi, dit-il, le sexe apprend sur le tard. Ne voyez là rien de péjoratif. Est-ce que vous êtes d'accord, Jean-Yves Haïes? Sur le tard, c'est un peu large aussi, hein?
Oui, ça c'est peut-être... je ne sais pas quel âge a Christian.
On
mais,
ne sait pas, il ne l'indique pas.
Chaque génération a tendance à être un peu jalouse de l'autre et à mépriser un peu l'autre et à croire que, bon, l'art sexuel, on l'a soit dans sa génération et que les autres, ils ne l'ont pas. Les jeunes disent que nous sommes vieux à partir de 29 ans. Hein, puis on est des légumes, on n'a plus de vie sexuelle, on ne comprend plus rien. Et nous disons peut-être que les jeunes ne sont pas très capables. Bon, ça ne me convainc pas beaucoup, je crois que...
Alors, on va passer à la question de Pierre. Bonjour, Pierre.
Bonjour, Pierre.
Alors, on t'écoute.
Moi, la question, c'est... est-ce qu'il y a des impacts...
Non. On va changer de micro. Non, c'était le bon micro, en fait. Donc, on va revenir sur le micro vert. Tout va bien.
Quels peuvent être les impacts psychologiques ou physiques néfastes dans le cas d'une relation précoce?
Ah. Relation sexuelle. Alors, d'abord, la notion de précocité.
Mais ce n'est pas une notion facile, la précocité, parce que quand j'ai parlé d'une moyenne, tantôt, qui ne bouge pas beaucoup, bah, une moyenne, c'est une moyenne. On va voir que pour les garçons, c'est une courbe de Gauss assez pincée. Pour les filles, la courbe de Gauss est plus étalée, pour des raisons de différence de psychologie sexuelle. Et donc, il y a des gens qui sont davantage vraiment prêts plus tôt.
Et c'est lié à quoi, alors?
Je ne sais pas bien vous répondre. C'est le mystère du développement de la vie. Certains d'entre nous sont plus précoces, d'autres tardent plus. Je crois que c'est lié un peu à l'équipement génétique. C'est peut-être lié un peu aussi à l'éducation. Je crois qu'il y a des parents qui ont l'art de pousser leurs enfants plus rapidement vers l'autonomie. Et ça peut marcher. Donc, si tu veux, si c'est tôt dans la vie, mais que c'est assumé, vraiment assumé, par les deux qui le font, ça n'aura pas, ça aura plutôt aussi un impact positif. Ils devront probablement un peu plus se cacher parce qu'il y aura les lois ou qui interdisent, et puis les parents qui ne vont pas être tellement d'accord de savoir que le gamin, 13-14 ans, a déjà des relations avec sa petite amie. Ce qui est plus, au point de vue impact, ce qui est plus traumatique, évidemment, c'est quand l'un s'impose à l'autre, l'autre n'est pas prêt, il n'ose néanmoins pas dire non pour garder l'estime et l'amour du premier, et il fait des choses qu'il n'a pas vraiment envie de faire. Alors, après ça, on peut avoir de l'angoisse, de la culpabilité, de la mauvaise estime de soi, peut-être pas parce qu'on a fait l'amour, mais parce qu'on a fait l'amour alors qu'on ne voulait pas le faire, on n'a pas été soi-même. Donc, je crois que ce qui est très important, c'est de négocier en toute vérité et de dire à son partenaire si on est vraiment prêt. Maintenant, tu peux encore imaginer, je faisais allusion tantôt au plan cul, ça existe chez les moins de 16 ans, hein. Il y a quelques pourcents des tout jeunes adolescents vont avoir des relations à visée bien plus physique, ou pour se démontrer qu'ils sont déjà bien performants, bien plus qu'à visée de rencontres amoureuses. Alors voilà, si de l'autre côté, leur partenaire est aussi d'accord pour faire ça, je ne crois pas que ça peut être traumatique. C'est certainement en dehors des conventions sociales. Ça ne les aide peut-être pas tout à fait dans la suite de leur vie à dominer la question du plaisir et à se modérer, mais il n'y a probablement pas plus d'impact que ça.
Nicolas, tu veux réagir, je crois.
Oui, vous parlez de l'impact de l'éducation des parents ou de la société autour. Est-ce que, enfin, là, vous répondez aux questions actuellement quand on reste dans un contexte occidental, européen, français, belge, mais dans certaines cultures, par exemple africaines ou asiatiques, certaines jeunes filles ou certains enfants se marient, on les oblige à se marier à 11 ans et on oblige la fille et le garçon à avoir leur premier enfant dès le premier jour de leur puberté. Est-ce que la culture peut avoir autant d'influence sur les jeunes?
Oui, je ne suis pas certain qu'on peut employer le mot obligation. C'est une donnée culturelle, c'est plutôt ce qu'on appelle une prescription culturelle, c'est dans l'ordre culturel.
Mais il y a beaucoup d'enfants qui sont contraints quand même.
Oui, mais il y en a aussi qui font des mariages, dans ces cultures, il y en a qui font des mariages précoces parce que c'est dans l'ordre des choses. Ils y arrivent quand même pas tous sous la férule. Alors écoute, je ne sais pas très bien répondre, je ne suis pas un spécialiste de l'interculturel. Je garde l'impression que ça arrive un peu tôt dans leur vie, je pense. Je ne vois pas pourquoi à 11, 12 ans, 12, 13 ans, ce que j'ai évoqué tantôt comme angoisse par rapport à l'autre, comme on a besoin de construire son identité, d'être sûr de ce qu'on est. Je ne vois pas pourquoi ça s'accélérerait dans ces cultures-là. Donc, il y a peut-être un moment d'angoisse et d'insécurité en début de ces jeunes couples, plus que quand on commence à le faire à 16-17 ans. Mais ils sont certainement aidés par le fait que la culture le veut. Ils sont quand même portés par l'ambiance culturelle qui considère que c'est normal. Et puis j'imagine que si l'ambiance culturelle le veut ainsi, les femmes plus âgées vont quand même un peu expliquer des choses aux filles. Donc il y aura un soutien culturel également. Mais je te dis ça un peu sur la pointe des pieds parce que je ne suis pas très spécialiste de l'interculturel.
Alors, Pablo, une question pour toi. Bienvenue.
Bonjour. Donc moi, c'était surtout une question donc un peu dans la continuité de la question de Nicolas sur le poids de la société. Donc avant, c'était plutôt à cause de la religion, c'était pas avant le mariage. Et maintenant, mais ça serait mais plutôt mais dans le sens quoi, mais t'es encore plus fort à 18 ans. Et donc ça serait mais dans la question, est-ce que le choix de l'âge de la première relation sexuelle est vraiment personnel?
Jean-Yves Ayez.
Mais est-ce qu'il y a des choses, est-ce qu'il y a des choix que nous faisons qui sont purement personnels? C'est-à-dire que nous ne vivons pas sur des îles désertes et nous nous imprégnons quand même toujours de consignes sociales, de valeurs, de messages de la société et de la culture. Enfin, on peut dire que c'est, oui, on peut quand même dire que c'est personnel, dans le sens où finalement je dis que je suis d'accord, mais je suis d'accord avec pas mes idées à moi tout seul, je suis aussi porteur d'une certaine imprégnation sociale. Alors dans ce sens-là, ben, souviens-toi peut-être de la constatation que je faisais tantôt, ça n'a pas immensément accéléré l'âge des premières relations, même pas tellement, pour les raisons que j'ai dites, malgré que la société incite beaucoup à consommer de la sexualité et de la sexualité physique. Ça n'a pas, si tu veux, les adolescents ont quand même gardé besoin pour beaucoup de leur temps intérieur pour y arriver. Maintenant, à partir d'un certain moment, le garçon ou la fille de 16, 17, 18 ans qui ne serait pas intéressé par la sexualité trop, ou qui serait plus timide ou plus introverti, ou celui-là va quand même avoir plus de mal qu'avant avec les messages qui viennent de ses copains et de ses copines.
C'est vrai que c'est aussi parfois mal vu d'être précoce en la matière, mais l'arrivée tardive aussi peut susciter des réactions assez négatives.
Oui, bien sûr. Oh, c'est plus mal vu d'être tardif que d'être précoce.
Absolument. Oui.
Entre jeunes, ils vont avoir tendance quand même à se vanter, éventuellement de choses qu'ils n'ont pas faites, mais ils vont quand même se vanter. Par contre, on va plus mentir si on a encore puceau à 20 ans, on va plus prétendre qu'on l'a déjà fait, pour ne pas se taper la honte vis-à-vis du petit groupe de copains et de copines qu'on fréquente tous les jours.
Jean-Yves Ayez, ce courriel d'Alexandre qui nous écoute à Paris. Pourquoi les techniques sexuelles ne pourraient-elles pas être enseignées, voire transmises, y compris par les parents, tout comme un père pourrait enseigner le bricolage à son fils?
Alors, Alexandre, c'est Alexandre,
oui.
Tu es le roi des provocateurs. J'espère bien que les parents ne feront jamais ça. Leur truc sexuel, c'est à eux. Et la génération des jeunes, elle n'a qu'à trouver ses trucs. Et crois-moi, elle ne manque pas de créativité. Et elle n'a pas besoin de la transmission vers les
parents.
Et de
la boîte à outils.
Elle n'a pas besoin de la boîte à outils. Mais pour les trucs et les techniques, hein, mais ce que les parents doivent transmettre, c'est que la sexualité dans la vie humaine, c'est une bonne chose, pour peu qu'elle reste raisonnablement bien sociable, qu'elle ne fasse jamais souffrir ceux qui y sont engagés, et pour peu qu'on reste quand même le pilote de l'avion, c'est-à-dire que, bon, on sache quand même en avoir un usage raisonnable. Il y a toutes sortes de choses à faire dans la vie et pas seulement rester au lit. Ben voilà, si les parents peuvent transmettre ce message-là, ça c'est intéressant. Mais qu'est-ce que c'est l'adulingus ou le cunilingus? Ben ça se trouve sur les forums pour adolescents, il n'y a pas besoin des parents pour apprendre ça.
D'autres courriels et des questions des lycéens du lycée français de Bruxelles dans un instant.
Les enfants, ça y est, je suis un homme maintenant. On s'est éclaté comme des bêtes. Toute la nuit, je suis vidé.
Attends, je capte pas, là. Et comment t'as fait? Qu'est-ce que tu lui as dit?
Rien, mon heure avait sonné. Bonne chance, les puceaux.
Voilà, pour illustrer donc le thème d'aujourd'hui sur les relations sexuelles, Jean-Yves Hayez est notre invité. Vous êtes pédopsychiatre et nous sommes donc à Bruxelles, au lycée français, avec les élèves de classe de terminale scientifique. Et il y a une question de Ségolène. Bonjour.
Bonjour. Je voulais savoir, est-ce que vous pensez que lorsque des jeunes ont des relations sexuelles tôt, ils sont totalement conscients de tout ce que cela peut impliquer? Et donc, s'ils sont conscients, est-ce qu'ils sont aussi responsables par rapport à leurs actes?
Écoute, je ne sais pas te donner une réponse statistique. J'espère de tout cœur que la qualité de l'éducation générale, la qualité de l'éducation sexuelle, la clarté des termes employés, fait en sorte que les jeunes, à partir de leurs 12-13 ans, de l'entrée dans la puberté, sont bien informés, sont bien conscients, et qu'on les aide à réfléchir sur les enjeux. Bon, maintenant, ce n'est pas encore parce qu'on donne de la bonne information qu'elle va être intégrée, que les gens vont en tenir compte, mais c'est déjà mieux que rien. Donc, moi, je pense que... Les messages que nous devrions faire passer, c'est veiller à ce que votre sexualité soit sociable, qu'elle soit pour votre partenaire, comme pour vous, une source de plaisir, de joie, d'épanouissement, et pas une source de souffrance. Donc ne faites pas pression sur l'autre, ne vous amusez pas à faire des couples pour tromper tout de suite votre partenaire, parce que c'est un autre genre de souffrance. Enfin, c'est tout ça la question de la souffrance liée à la sexualité.
Il y a aussi les maladies sexuellement transmissibles, la grossesse, tout ça entre aussi dans...
Un autre genre de responsabilité, c'est évidemment de veiller à ce qu'il n'y ait pas de conséquences désastreuses, comme les grossesses précoces, qui sont quand même... difficiles à vivre, qui aboutissent soit à des avortements, soit à des bébés difficiles à gérer. Et puis, la question des maladies vénériennes, et notamment du sida. Hein, moi, je connais un garçon d'une vingtaine d'années, vraiment un brave garçon, sociable, étudiant universitaire. Bon, qui n'a pas pris de précautions. Il est homo, donc il n'a pas pris de précautions lors de fellation. Et il a maintenant découvert qu'il était HIV positif.
Nicolas, est-ce que, selon toi, l'information est suffisante autour des relations sexuelles et surtout des maladies sexuellement transmissibles et le sida en particulier?
L'information est donnée au lycée, dans les médias. Maintenant, le sida est la maladie la plus connue, malheureusement. L'information est donnée au lycée, bon, on en parle, il y a des campagnes, tout le monde connaît le SIDAction, on se trimballe tous avec notre petit pins le 1er décembre. Maintenant, je pense qu'on arrive aussi bien à s'informer seul. Internet est un média fantastique et dangereux, mais qui permet à beaucoup de personnes de s'informer sur les questions auxquelles ils n'osent pas poser à des adultes ou à d'autres, tout à fait, de peur du regard.
Mmh. Tout à fait.
Alors cette question de Brigitte, puisqu'on va parler un petit peu de l'homosexualité également, comment en parler justement aux adolescents, demande Brigitte. C'est un sujet encore tabou dans les établissements scolaires et le silence sur ce sujet en fait souffrir beaucoup. Alors c'est vrai, comment est-ce que les enfants d'abord affrontent leur pulsion homosexuelle? Comment débute cette sexualité? Et ensuite, comment est-ce qu'elle est perçue au sein du lycée, puisque c'est le cadre de l'émission aujourd'hui?
Oui, il faut évidemment distinguer l'orientation profonde homosexuelle et le destin de vie vraiment homosexuel de jeux sexuels homo qu'on fait entre ses 9-10 ans et ses 14-15 ans. Il y a des masturbations mutuelles et même parfois des activités de pénétration plus structurées, disons, homo, mais qui sont des explorations de la sexualité, qui sont des moyens de se faire plaisir assez facilement, parce qu'on a quand même moins peur d'un autre qui a exactement le même corps que nous, que du partenaire de l'autre sexe. Donc, voilà, il peut y avoir des activités homo, mais chez des gens qui, après ça, vont prendre une orientation tout à fait hétérosexuelle.
Et alors, pour les enfants, chez lesquels ça s'affirme, précisément ?
Alors, bon, ce qui est indicateur, je pense, beaucoup plus d'une orientation homosexuelle, c'est l'amour. C'est pas le fait qu'on a joué à deux avec des zizi, c'est vraiment ou l'équivalent pour des filles, mais c'est vraiment je suis un garçon et ce garçon à peu près de mon âge ou un peu plus jeune ou un peu plus vieux, quand je le vois dans la cour, il y a mon cœur qui se met à battre. J'ai vraiment un sentiment amoureux, j'ai un désir amoureux. Alors évidemment, si ça est persistant, c'est bien plus là l'indicateur qu'on s'engage dans l'homosexualité. Alors, c'est un destin, hein, le destin hétéro ou le destin homo. Il y a à peu près 10% des gens qui vont avoir un destin homo. Alors pourquoi ils ne l'ont pas demandé, comme les hétéros n'ont pas demandé et décidé comme ça un jour de devenir hétéro? C'est probablement une série de facteurs de vie. Une série de... Peut-être il y a quelque chose de génétique, peut-être il y a des expériences précoces qui tournent plus vers des gens...
On n'a pas franchement de réponse sur la question.
Ça doit être différent d'une personne.
Surtout en méthode génétique.
Ça doit être différent d'une personne à l'autre. Mais le fait est qu'à un certain moment, c'est un destin. Alors on peut choisir de l'exprimer ou d'essayer de ne pas l'exprimer. On peut faire semblant que pas. Actuellement, dans nos sociétés occidentales, il y a plutôt une ouverture sociale. Il y a même parfois une promotion de l'homosexualité.
Mais est-ce qu'à l'école... Alors, je vais peut-être poser la question d'ailleurs aux lycéens eux-mêmes. Je ne sais pas, Cyril, est-ce que tu veux répondre à cette question ? Est-ce que l'homosexualité, on en parle facilement ici au lycée, comment est-ce que tu as l'impression qu'elle est perçue ? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est plutôt caché ? Alors, on va brancher le micro. Décidément, on a un petit peu de problème de son. On ne t'entend pas, donc on va peut-être changer de micro. Alors, on va y arriver. Désolé Antoine, on va te repasser après le micro que tu tenais. Voilà, Cyril.
Donc, je considère plutôt que, à mon avis, l'homosexualité, on le prend plus au niveau de... pour faire des blagues dans un groupe entre amis. Enfin, je parle pour les garçons, les filles, je ne sais pas du tout comment ils le considèrent. Mais
donc, ce n'est pas vraiment une réalité, c'est ce que tu es en train de dire.
C'est qu'il y en a sûrement certains, mais ça doit être caché. Ils n'osent pas vraiment le dire. Il y a toujours cette censure un petit peu forcément qui est en place. Et nous, c'est plus au niveau de la rigolade qu'on va le prendre. Quoi. Mmh.
Jean-Yves Aïez, une petite réaction sur...
Écoute, si on regarde les statistiques, il y a à peu près 10% d'entre vous qui se donneront une carrière homo, qui s'affirmeront comme homo, filles ou garçons, et qui actuellement vivront d'ailleurs probablement plus leur vie comme ça que ce n'était possible en 1950. Alors si tu veux bien réfléchir, 10% c'est beaucoup. Et moi, j'espère qu'un jour, les jeunes qui se sentent vraiment gays ou lesbiennes auront le courage de se présenter à 15-16 ans quand ils sont vraiment persuadés que leur orientation est là, de se présenter à leur copains et copines, et j'espère de tout cœur qu'ils seront accueillis. Parce que c'est vraiment très douloureux de se savoir homo et de penser que les autres ne vont pas nous accueillir ou se foutent de nous. On sait bien qu'il y a, par exemple, il y a plus de suicides chez les jeunes homo parce que, pour cette raison-là, de peur de l'exclusion que chez d'autres. Alors bon,
d'où l'importance de la lutte contre l'homophobie,
à
l'école en particulier.
De l'accueil.
Il y a une campagne d'affichage d'ailleurs de l'Éducation nationale sur ce thème qui, je crois, a lieu en ce moment dans les établissements français. Cyril,
donc aussi, je me demandais par rapport au destin que vous disiez d'être homosexuel et de tout ce qui est au rapport avec les pulsions qu'on peut avoir, notamment à l'adolescence, si on ne devrait pas parler plutôt avec le premier rapport sexuel de découverte de sa sexualité plutôt que d'un véritable apprentissage. comme on le signalait dans un courriel tout à l'heure.
Alors, Jean-Yves Aïez, vous réfléchissez à cette question.
Oui, c'est une révélation, mais je dirais que ce n'est pas une découverte inattendue. Maintenant, on ne peut pas non plus nier qu'au niveau, au niveau des techniques sexuelles, mais aussi au niveau de la négociation de la vie avec l'autre, c'est aussi un moment d'apprentissage. Ce premier moment où on va être dans une très grande intimité avec lui, après, on va connaître des choses de lui qu'on ne connaissait pas, et il faut apprendre à comment négocier les suivantes, comment on exprime ses désirs amoureux, sexuels. Donc la dimension d'apprentissage est là, et de même que la dimension de révélation, de preuve qu'on se donne à soi-même.
Antoine, ce sera la dernière question, puisqu'il est déjà 14h57.
Oui, bonjour.
On t'écoute, bonjour.
Je me demandais, est-ce que justement les parents n'essaient pas trop d'encadrer les enfants, notamment avec des émissions comme La Tête au Carré ou encore avec Internet ou les médias, et que ça casse un petit peu l'aspect mystique, la découverte de l'autre, de la première relation?
C'est compliqué la réponse. Les parents, ils sont paradoxaux. Hein. À la fois... il garde un désir de contrôle, mais c'est un désir tout à fait mythique. Hein. On ne sait pas vraiment contrôler la vie sexuelle des autres. Vous êtes en dehors de vos parents la plus grande partie de votre temps. Hein. Alors, il garde un désir d'informer, mais quand ils n'informent pas sur tout. Ils disent souvent, mais c'est pour plus tard. Quand tu auras un an ou deux en plus, tu verras comme c'est bon l'amour. Ben, c'est jamais pour maintenant. Il ne parle pas facilement du plaisir, c'est peut-être la question de leur pudeur. Donc, je trouve qu'ils ont des informations tronquées qui pourraient peut-être l'être un peu moins. Et puis, il y a quand même beaucoup de choses qui leur échappent.
Merci beaucoup, professeur Jean-Yves Aïez, qu'on peut d'ailleurs remercier pour cette discussion cet après-midi avec les élèves du lycée français de Bruxelles. Et puis juste avant de vous quitter, je voudrais dire un petit mot des prochains rendez-vous de l'Université Tous les Savoirs avec vous, Mathilde De Sanne, bonjour.
Bonjour.
Avant de se retrouver au mois de mars à Bordeaux, ce sera le 9 mars exactement, vous avez d'autres rendez-vous, et le 23 février par exemple.
Notamment, effectivement, le 23 février, donc le matin, au lycée Mondory à Thiers, en Auvergne, une conférence sur « Qu'est-ce qu'une œuvre d'art ?» avec Yves Michaud, qui est philosophe, et l'après-midi, une conférence sur le sida par Jean-Luc Darlix, qui est virologiste à l'INSERM.
Voilà, donc c'est le 23 février dans le Puy-de-Dôme à Thiers. On met toutes les infos sur le site internet de la Tête au Carré avec le site de l'UTLS, www.utls.fr. Merci beaucoup à tous de nous avoir accueillis ici à Bruxelles. Merci à Philippe Cabon, Andreas Jaffré, Dominique Allard, chargé de production. Nous restons à Bruxelles, puisque demain nous serons en direct de la Galerie de l'évolution du Muséum d'histoire naturelle de Bruxelles. C'est sa réouverture après 40 ans de travaux. Nous serons en direct de la Grande Galerie de l'évolution avec plusieurs invités et vos questions, bien sûr, sur franceinter.com. Bonne journée sur l'antenne. Dans un instant, Daniel Mermet, il est 15h.